Chali m'était conté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour faire comme dans les bons feuilletons, je vais revenir sur les épisodes précédents, sur le dernier au moins, où nous avons évoqué un cardinal, un certain Louis d'Est, le neveu d'Hippolyte d'Est. Je ne vais pas reprendre évidemment l'histoire de la Renaissance à Chali. Donc à la mort de Louis d'Est, c'est un étrange abbé qui attire notre attention, qui va donc succéder à Louis d'Est, Aloysius d'Est. Et cet abbé attire notre attention parce qu'on va le trouver mêlé à une histoire où l'astrologie joue un grand rôle. Alors, ne confondons pas, bien sûr, l'astrologie qui prétend expliquer les aspects d'une personnalité et prédire les événements selon la place des planètes, en quelque sorte, des objets célestes. Elle utilise pour ça l'horoscope, par exemple, avec l'astronomie, qui est une science de l'observation des astres, souvent considérée comme la plus ancienne des sciences.
L'astrologie, ça remonte aux Grecs encore, ça.
Oui.
Aux dieux grecs.
Bien sûr. C'est toujours cette volonté des hommes à trouver, dans des phénomènes qui lui sont extérieurs, des solutions pour l'avenir, mais aussi pour le passé, parce que c'est une façon aussi de se doter, n'est-ce pas, d'un au-delà, après, évidemment, notre propre disparition. Alors, bien sûr, aucune justification scientifique ne peut cautionner la pratique des astrologues. Les statistiques, d'ailleurs, n'offrent que des résultats non probants. Le discours astrologique jouit quand même, maintenant, d'une extrême plasticité et, en même temps, trouve beaucoup d'amateurs. Parce qu'il explique, il essaye d'expliquer la permanence du cours de l'histoire. Et on peut dire que parmi nos contemporains, nombreux sont encore, même s'ils ont le sourire aux lèvres, regardent, n'est-ce pas, les prédictions de l'horoscope en fonction évidemment de la date de naissance, etc. Le problème, c'est que le temps a changé, les planètes également. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans cette polémique, d'autant plus que je voudrais dire qu'il ne s'agit pas de repousser l'astrologie comme un phénomène d'hurluberlu sur le plan historique, mais au contraire, il faut la prendre au sérieux. Parce qu'au XVIe siècle, c'est le siècle qui nous intéresse, les gens y croyaient vraiment. Donc c'était une réalité historique. Donc, on ne peut pas s'en sortir d'un revers de la main en disant « Oh, ce sont des superstitions, etc. » Non, je crois que lorsqu'on étudie des périodes d'histoire, il nous faut absolument nous conformer aux idées qui étaient, aux pratiques qui étaient à la mode pendant cette période. Et donc, celle qui nous intéresse, c'est celle de Catherine de Médicis, je dévoile un peu mes batteries auparavant, eh bien, nous oblige à considérer que cette régence a passé toute sa vie à consulter les astrologues.
C'est étonnant quand même. Parce qu'on pouvait dire qu'on sortait un peu du Moyen-Âge, des croyances, et que peut-être les choses allaient...
Oui, les choses évoluent, mais on ne peut pas dire qu'il y a une véritable progression. Les moines, sans être des astrologues, avaient une observation très précise des astres, de l'astronomie. Moi, j'ai des poèmes de Guillaume de Digulville, entre autres, où il se place, évidemment, par rapport aux astres, quand il va commencer son récit, son songe, comme il dit. À la Renaissance, on poursuit. Mais moi, j'ai le souvenir quand même d'un certain président de la République qui consultait, n'est-ce pas,
Mitterrand,
pour ne pas le nommer, qui consultait une astrologue dont le nom, c'était...
La plus célèbre à l'époque, je ne sais plus son nom.
Valentine Tessier.
C'est ça.
Voilà. Ça va. Bon, ça me rassure un peu. Cette pratique, elle existe et tout historien se doit évidemment d'en tenir compte et de la penser comme une réalité. Alors, que s'est-il passé à propos de Catherine de Médicis et en quoi l'aventure de cette régence va concerner Chali? Parce qu'on est bien évidemment dans cette émission qui s'intéresse à l'histoire de Chaly. Alors, je citerai un historien qui est aussi le biographe de Catherine de Médicis, il s'appelle Jean-François Solnon. Il nous dit que l'imaginaire collectif a toujours attribué à Catherine de Médicis de conseillers très influents. De Michel, d'ailleurs. Le premier s'appelle Michel de l'Hôpital ou d'Hôpital. Et le deuxième, c'est Michel de Notre-Dame, que les Français connaissent sous le nom de Notre-Dame, Nostradamus. Et on peut attribuer à ces deux conseillers des conseils, et pour le deuxième, des prédictions, qu'on attribue parfois d'ailleurs à un autre astrologue. On se mélange un petit peu dans les astrologues de Catherine de Médicis. Je pense qu'un des plus fidèles se nommait Luca Gaurico. En tous les cas, on est donc devant un gouvernement bicéphale, en quelque sorte. D'un côté, on va avoir l'homme de la raison, en quelque sorte, Michel de l'Hôpital. Et puis de l'autre côté, on va dire, le conseiller de la sensibilité de l'époque. Donc, celui qui prédit en permanence les choses. Et d'ailleurs, le premier, hein, Michel de l'Hôpital, avait beaucoup de peine à convaincre Catherine de Médicis qu'il ne fallait pas, évidemment, suivre les conseils de l'astrologue. Alors, cela dit, je parlais de Catherine de Médicis. On a l'occasion de dire que, contrairement à ce qu'on a raconté très longtemps, il ne faut pas mettre sur cette régente l'ensemble des calamités, des guerres de religion, et probablement même aussi le massacre de la Saint-Barthélemy. Là encore, il y a des comptes qui se sont réglés à travers l'histoire, dans lesquels il nous faudra un petit peu faire le tri. Alors, comme je disais tout à l'heure, les humanistes en général, et même l'Église, ont petit à petit repoussé l'idée que les astres puissent influer sur le destin des hommes. Mais malgré quand même ces deux autorités, et je pense aussi bien sûr à l'Église, le recours aux horoscopes, à la naissance d'un enfant, par exemple, était commun chez les édiles, mais aussi chez tous ceux qui étaient capables d'accéder à ce type d'informations. Il y a, alors je ferai une petite parenthèse et je demande également ton avis, est-ce que ces croyances ne perdurent pas aussi sous d'autres formes de nos jours?
Le moindre journal a son horoscope. Chacun consulte par curiosité, quoi, sans y croire. Mais.
Oui, c'est vrai que c'est amusant.
C'est amusant.
C'est amusant de se dire que aujourd'hui, il va se passer telle ou telle chose. Voilà. Mais moi, je parlais aussi des croyances. Cette volonté, moi, je suis absolument étonné. Je suis un ancêtre, de voir le développement des fausses nouvelles. Ceci dit, il y en avait déjà aussi au 18e, au 19e, au 20e. Elles prennent maintenant peut-être beaucoup plus d'importance. L'invasion est plus grande, parce qu'avant, ces fausses nouvelles ne concernaient qu'un tout petit milieu. Alors qu'au contraire, maintenant, avec ce qu'on appelle les réseaux dits sociaux, je ne sais pas ce qu'il y a de social dans ces réseaux, mais avec les réseaux dits sociaux, ces fausses nouvelles se répandent évidemment à une vitesse absolument supersonique en quelque sorte. Alors pour revenir à nos astrologues, il faut se dire que traditionnellement, les rois, les princes et même le pape...
Oui, alors ça c'est curieux quand même.
...utilisaient les services d'un astrologue.
Mais enfin, ils y croient et ils n'y croient pas, quoi.
Oui, mais on ne sait jamais.
Voilà.
C'est un peu l'attitude de certains hommes par rapport à la religion, d'une façon générale, d'ailleurs. Hein. C'est le pari de Pascal, sans autre précision. Parmi les reines, puisqu'on veut l'appeler quand même la reine, c'est quand même Catherine de Médicis qui a été la plus curieuse, on va dire, en termes d'astrologie. Et pour chacun de ses 10 enfants, elle qui ne pouvait pas en avoir au début, elle va commander un horoscope. Et sa vie durant, elle va être en relation avec des astrologues, des Français, des Italiens, le Napolitain Luca Gaurico que j'évoquais tout à l'heure. On peut dire que ces astrologues vont être des invités en permanence à la cour de Catherine pour dresser ces fameux horoscopes. Petite parenthèse pour vous donner l'importance de ces personnalités. Lors du voyage autour du royaume que Catherine de Médicis effectue avec son fils Charles IX, elle va s'arrêter à la maison de Nostradamus. Elle va rendre visite à Salon de Provence à Nostradamus. C'est quand même extraordinaire, hein, ce qui montre évidemment l'importance que pouvait avoir un tel personnage. Alors, parmi les autres mages, on ne va pas faire une longue liste, mais il y a Rainieri, entre autres. Et puis, il y en a un qui est assez inquiétant, qui s'appelle Rougier. Enfin, au début de la consultation qu'avait demandé la reine, on lui fait apparaître ses fils l'un après l'autre dans un miroir. Alors on montrait une grande salle et on voyait les successeurs d'Henri II, on va dire, hein, donc le roi qui était mort, comme vous le savez, et qui était l'époux de Catherine de Médicis. On va voir donc les différents successeurs, François. Alors François ne fera qu'un tour de la pièce seulement, hein, dans le miroir. Ah oui, il a régné très peu de temps. Hein. Quant à Charles, il va en faire 14, Henri III, 15, et après une courte apparition, dit-on, courte apparition du duc de Guise, Henri de Navarre était apparu et avait fait 22 tours. Et c'était brusquement évanoui. Alors, bah oui, il a été assassiné, Henri IV. Donc, on réécrit en quelque sorte l'histoire à travers ces légendes qui deviennent de plus en plus des faits réels, enfin, qui sont soupçonnés d'être réels. Alors que ces astrologiens, comme on les nommait à l'époque, se trompassent, rien n'empêchait la reine de continuer à recourir à leurs prédictions. Une décision à prendre, une rencontre à prévoir, une négociation à entreprendre ou un combat à livrer, et Catherine consultait ses mages. La légende s'est emparée de cette marotte pour accuser Catherine de magie noire. On disait que avec Côme Ruggieri, encore un autre, il ne s'agit pas de celui qui tire les feux d'artifice, là, c'est un astrologue, elle aurait été complice de pratiques vraiment sataniques, en quelque sorte, des statuettes de cire percées d'épingles à l'effigie d'un adversaire dont on veut la mort, des envoûtements, des drogues mortelles, des gants empoisonnés. Vous imaginez tout l'arsenal hétéroclite des pratiques maléfiques en usage dans l'arrière-cabinet de la veuve noire. Voilà où on en est. Ça peut paraître exagéré, mais on est là dans le récit qui nous a été fait de cette période historique, à travers les siècles, évidemment, qui vont s'écouler. Catherine, finalement, partageait les superstitions de son temps. Elle était très attentive aux signes célestes, aux comètes, aux éclipses. D'ailleurs, elle portait sur elle des talismans aux vertus magiques. À l'image de ses contemporains, elle était convaincue de vivre dans un univers où de mystérieuses correspondances reliaient le cosmos et le microcosmos, hein, c'est-à-dire donc l'ensemble planétaire et le microcosmos, c'est-à-dire nous-mêmes, en quelque sorte. Elle était aussi persuadée que les arts, la poésie, la musique et la danse permettaient de capter et de reconnaître des signes divins. Voilà, si vous voulez, une utilisation, en quelque sorte, de la culture assez originale, qui, petit à petit, il me semble, pour le moins, a en grande partie disparu. Parmi les nombreuses prédictions, je vais retenir une précise, qui est celle de Luca Gorico, si on le dit à la française. Il aurait prédit à Catherine de Médicis qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Retenez bien, elle mourrait près de Saint-Germain. Imaginez évidemment l'angoisse de Catherine de Médicis. Entendre ainsi le lieu de sa mort dans la bouche même d'un astrologue en qui elle avait une entière confiance, ça ne devait pas être évident à vivre pour une femme qui était superstitieuse comme elle. Ce Luca Gorico était fort connu comme astrologue et les grands lui demandaient souvent des prédictions. Mais une petite histoire qui se raccroche d'ailleurs à Chali, un jour, il avait bien failli périr pour avoir fait des annonces funestes. En 1506, ayant prédit à Giovanni Bentivoglio, seigneur de Bologne, qu'il serait bientôt chassé de sa ville, ce dernier lui fit subir le supplice de l'estrapade. L'estrapade, vous savez, ça consiste à jeter un bonhomme, n'est-ce pas, du haut d'une muraille, simplement attaché à un membre. Vous imaginez. Eh bien, à ce supplice, n'est-ce pas, notre astrologue va survivre. Quant au seigneur de Bologne, et là, si, un petit rapport avec Chali, parce qu'on peut admirer à Chali le portrait de quatre de ses filles, par Lorenzo Costa, il fut chassé de sa ville par le pape Jules II. Bien puni.
Ah, voilà. Hein
voilà.
Yeah.
Fortement impressionnée par la prédiction de Goricault, Catherine décide de se tenir à l'écart de Saint-Germain-en-Laye. Ben oui, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain.
Ben oui.
C'est le château royal. Donc, c'est terminé. Elle ne se rend plus.
Je n'y vais plus, je ne veux pas mourir.
Voilà. Pour ne pas mourir, je ne vais plus à Saint-Germain-en-Laye. Mais des Saint-Germain, il y en a beaucoup. Hein, Saint-Germain, pour la petite histoire, je vous rappelle, c'est un évêque d'Auxerre assez extraordinaire, hein, des premiers évêques d'Auxerre qui peut être canonisé, je passe sur les détails. Au centre de Paris, il y a un autre Saint-Germain.
Eh oui, Saint-Germain-des-Prés.
Il y a Saint-Germain-des-Prés, l'abbaye de Saint-Germain. Oui. Il y en a un autre sous la forme d'une église, à côté du Louvre.
Ah oui.
Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est ça. Oui. L'Auxerrois, comme vous voulez, qui fait référence justement à l'évêque dont je viens de parler. Donc, le palais qu'elle avait prévu d'installer juste à côté du Louvre, j'irais presque dans le Louvre, non. C'est trop près de Saint-Germain, l'Auxerrois. Alors, elle décide de faire construire un autre palais dans la paroisse de Saint-Eustache. Ça se trouve à peu près à l'emplacement du musée récemment inauguré sur la Bourse de commerce de Paris, vous voyez, sur le Forum des Halles. Hein, vous voyez ce grand bâtiment cylindrique transformé en musée récemment. Et c'est là qu'elle fait construire un palais qu'on va appeler, manque d'imagination, le palais de la reine. Plus tard, il deviendra l'hôtel de Soissons, parce qu'il a été racheté en 1606 par un condé, par Charles de Bourbon-Condé, comte de Soissons. En 1760, cet hôtel fut détruit et c'est là qu'on va édifier, dans un premier temps, une halle à blé, à son tour remplacée en 1889 par la Bourse de commerce. Hein. C'est là où on achetait, on vendait les grains, mais aussi les matières premières, etc. Et puis, récemment, vous savez, la collection Pinault va s'emparer de ces lieux pour s'y installer. Alors, sur cet emplacement, se trouvait auparavant un vieil édifice gothique qu'on appelait l'hôtel de Nesle. Hein, c'est quand même un lieu très intéressant dans l'histoire de France, puisqu'il avait été bâti sur ordre de Blanche de Castille. Là, ça vous rappellera évidemment la période de Saint-Louis, la mère de Saint-Louis, et qui d'ailleurs était morte. Cet hôtel avait appartenu ensuite à quelqu'un qui nous intéresse, à Charles, le comte de Valois, puis ensuite à Jean de Luxembourg, roi de Bohême, puis au duc d'Orléans, enfin, etc. Devenu le roi Louis XII, ce dernier en fait don à un couvent, celui des filles pénitentes. Mais, évidemment, il était mal installé parce que Catherine avait décidé d'installer son palais à cet endroit-là. Donc, elle expulse les filles pénitentes et elle va les envoyer, sans malice, surtout à l'époque, rue Saint-Denis. Voilà. Alors, du palais de la Reine, de nos jours, il y a quand même un reste que tous les Parisiens connaissent et même les gens qui vont se promener, qui connaissent le quartier des Halles, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Il reste de nos jours une colonne. Si vous regardez, Saint-Eustache à droite, et puis devant vous, devant le bâtiment cylindrique, vous avez une colonne astrologique. On l'appelle la colonne Médicis. Alors, cette colonne, d'ailleurs, elle fut sauvée de la démolition, au moment de la Révolution, d'ailleurs, même un petit peu avant, hein, par un homme de lettres, qui va l'acheter, puis ensuite qui va la céder à la ville de Paris. Merci à monsieur Louis Petit de Bachoumont, car tel était le nom de l'acheteur. Donc, cette colonne astrologique, c'est une grande colonne dorique, creuse, qui fait 31 mètres de haut, et qui a été élevée vers 1574. Elle faisait donc partie de l'hôtel édifié par un grand architecte de l'époque, c'est Jean Bulan, hein, entre 1572 et 1584. Donc l'hôtel de la Reine, c'est une vaste résidence composée d'un grand corps de logis à trois pavillons, des ailes en retour, encadrant une cour d'honneur et se prolongeant sur des jardins, une structure qui correspond à la structure des châteaux de cette période qui ont enlevé leurs oripeaux médiévaux, n'est-ce pas, et percé leurs murailles pour y installer des fenêtres et s'ouvrir sur des jardins, d'une façon générale, sur la nature. Alors cette haute colonne qui dominait les pavillons, communiquait avec les appartements de la reine par une porte située à hauteur du premier étage de l'hôtel. Elle aurait servi à Côme Ruggieri, en voilà un autre dont on a aussi déjà parlé au début de notre émission, hein, un autre astrologue, bien sûr, à qui l'on prête parfois la prédiction de Saint-Germain. Vous voyez, de temps en temps, on dit « Ah ben non, c'est pas Gorico, c'est Ruggieri ». Enfin bref, nous ne sommes pas capables de trancher, et ce n'est pas forcément le plus important de notre propos. Le problème maintenant, c'est tout ce qui reste du palais de la reine, c'est cette fameuse colonne. Si vous la regardez bien, elle est semée dans ces cannelures d'ornements divers. Il y a des fleurs de lys, des cornes d'abondance, des miroirs brisés. Alors, c'est un symbole, peut-être, symbole de la prudence qui n'existe plus. Vous savez, le miroir, c'est la prudence, hein, d'une façon générale, qui permet de regarder derrière aussi. T'es jamais. Et puis, il y avait aussi des grandes initiales, CH. Catherine Henry. Parce qu'évidemment, la pauvre Catherine, aussitôt mariée, elle avait une concurrente extrêmement redoutable, qui n'était autre que Diane de Poitiers, cette belle femme. Hein. Et très souvent, le roi se trompait de lettre. Il mettait DH au lieu de CH. Donc, cette colonne, elle est d'ailleurs surmontée d'une espèce d'armature de fer. Oh, ça fait un petit peu comme... Cage à oiseaux, mais de grand volume. Et au-dessus, il y avait une sphère en ferronnerie. Je ne sais pas exactement quel était son usage. En tous les cas, cet observatoire, peut-être astrologique aussi, parce que là aussi, au niveau de l'observation, on se situe dans les mêmes pôles d'observation, qu'on soit scientifique ou sorcier kabbalistique, c'est toujours intéressant de s'élever pour mieux voir, évidemment, le ciel et les astres qui s'y trouvent. Bon, plus tard, on va retrouver d'ailleurs ces fameux astrologues attachés à la maison de Catherine de Médicis au château de Blois. Alors, continuons cette histoire, en laissant un petit peu de suspense à propos de Shelley. Catherine va vivre une douzaine d'années dans son palais parisien. Mais évidemment, vous savez que l'histoire de France n'attend pas, en quelque sorte, et que Henri III a prévu. Cyniquement et peut-être d'une façon très efficace en même temps, de faire disparaître son concurrent, celui qui voulait prendre sa place. C'est comme dans une bande dessinée. Il voulait prendre la place, évidemment, du calife, en quelque sorte. C'est le duc de Guise, Guy le Balafré. Et tout ce beau monde va se retrouver à Blois, et tous vont mourir. Le duc de Guise assassiné par des sbires sur les ordres d'Henri III, son frère, le cardinal, quelque temps après, et Catherine, elle, toute une série de suppositions. On sait en tous les cas, elle va mourir à l'endroit même où son arrière-grand-mère est morte aussi. Hein, c'est Valentine Visconti, ou on l'appelle aussi Valentine de Milan, qui est d'ailleurs la grand-mère de Louis XII. Hein. À Chalie, d'ailleurs, à l'entrée de la salle à manger, on a encore, là aussi, un témoignage de la famille Visconti, puisque sur les armoiries, il y a ce qu'on appelle une vouivre. C'est une sorte de serpent ailé qui engloutit un enfant. Pour les passionnés d'automobile, je sais qu'il y a une... c'est pas Alfa Romeo qui a aussi cet emblème, hein. Oui. Donc le Milanais, enfin bref. Revenons à notre château de Blois. Alors, un peu de mystère, dans la nuit du 22 au 23 décembre 1588, le roi Henri III, donc le fils, le dernier fils de Catherine de Médicis, repose dans la même chambre de sa mère, Catherine, qui ne se doute pas que les deux jours à venir sont décisifs pour la royauté, donc avant que l'assassinat ne soit commis. Henri ne lui a rien dit, sans doute pour éviter une nouvelle tentative de conciliation. Vous voyez, on est loin de cette légende qui fait de Catherine de Médicis une femme très autoritaire, qui décide de tout, bien au contraire. Donc, à la limite, on peut penser qu'Henri III, pour éviter toute tentative de réconciliation, soit-elle légère, n'en parle pas. Donc, le lendemain, comme je le disais, bien Guise et le cardinal de Rennes seront assassinés. Pour Catherine, que la visite de son fils avait laissé dans une extrême faiblesse, parce qu'elle s'est bien doutée que c'était une action qui allait là encore modifier radicalement, évidemment, le pouvoir royal. Elle dit d'ailleurs, c'est une action violente, c'est une action périlleuse qui ne peut qu'entraîner de nouveaux malheurs. Elle est très affaiblie. Pourtant, le 1er janvier 89, après la messe, malgré un froid intense, elle rend visite au cardinal de Bourbon qui l'accueille d'une façon très froide, voire même avec colère. Votre parent nous a tous conduits à la boucherie, etc. Ce qui n'était pas faux. Elle s'enfuit hurletante, saisie de mélancolie et de regret. Écoutons les chroniqueurs de l'époque. Accablée par la fièvre et la toux, elle s'alite pour ne plus se relever. Le 5 janvier, Julien, le confesseur du roi Henri III, oui, parce que Catherine n'était pas venue avec son confesseur. Donc on va demander évidemment à celui qui est capable de venir pour assister évidemment la reine à la fin de sa vie. Donc on fait appel à Julien, le confesseur du roi Henri III, et il vient l'assister dans ses derniers moments. On dit qu'elle dicte alors son testament. Ouais, on peut quand même supposer que, étant aux dernières extrémités, on la voit mal avoir un raisonnement très, très précis sur la façon dont elle veut que sa postérité s'organise. Et puis surtout arrive le moment des derniers sacrements. Et là, dans un souple, elle demande au prêtre qui l'assistait, quel est votre nom ? Et il lui répond, Julien. Julien de Saint-Germain. Elle se rappela alors la prophétie et s'écria, je suis morte. Une épitaphe souvent amputée, recueillie par Pierre de l'Étoile, résume les opinions contradictoires des contemporains et les difficultés de juger la reine-mère. Le texte hésite entre respect et réprobation. Je demandais à André de nous donner ce petit texte qui correspond à l'opinion qu'on avait à ce moment-là de la reine.
La reine qui s'y gît est un diable et un ange, toute pleine de blâme et pleine de louanges. Elle soutint l'État, et l'État mis à bas, elle fit maints accords et pas moins de débats. Elle enfanta 3 rois et 5 guerres civiles, fit bâtir des châteaux et ruiner des villes, fit bien de bonnes lois et de mauvais édits. Souhaite-lui, passant, enfer et paradis. C'était « Si Chalim était compté » avec Jean-Marc Vasseur, attaché culturel et pédagogique de l'Institut de France à Chalis.